Bonjour à toutes, bonjour à tous. Qui c'est qui a terminé les vacances? Qui c'est qui n'est pas parti en vacances? Qui c'est qui aurait voulu partir en vacances? Ok. Vous savez quoi? Que vous soyez parti, que vous voulez partir, vous êtes à la bonne place ce matin. Si vous êtes là pour la première fois, si vous nous visitez, soyez les bienvenus. On est heureux de vous accueillir ici à l'église de réveil de Genève. Est-ce que vous allez bien? C'est la question que je viens de vous poser. La plupart ont dit oui. Mais pourquoi pas vous poser plutôt la question, est-ce que vous êtes faible aujourd'hui? Ou comment va vos faiblesses? Comment se portent vos faiblesses? Nico, qu'est-ce que tu es en train de dire là? Mais reviens sur terre. Pourquoi tu nous parlerais de nos faiblesses? Pourquoi tu nous demanderais comment se portent mes faiblesses? On ne vous demande jamais ça, n'est-ce pas? C'est un peu bizarre. Et pourtant, ce n'est pas si bizarre que ça. Je vous propose de venir avec moi dans la lecture de ce texte de 2 Corinthiens 12. On va lire les 10 premiers versets, versets 1 à 10. Je lis dans la version du Semeur, c'est une version qui me plaît. Pour ceux qui connaissent cette version, vous pouvez suivre aussi sur les écrans. Donc 2 Corinthiens 12, versets 1 à 10. Faut-il se vanter ? Cela n'est pas convenable. J'en viendrai cependant à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme, un chrétien, qui, il y a 14 ans, a été enlevé jusqu'au troisième ciel. Était-ce dans son corps? Je ne sais. Ou sans son corps? Je ne sais. Mais Dieu le sait. Je sais seulement que cet homme, dans son corps ou hors de son corps, je ne sais, Dieu le sait, a été enlevé au paradis et qu'il a entendu des paroles qu'on ne peut pas répéter, parce qu'il n'est pas permis à un homme de les dire. Au sujet d'un tel homme, je me vanterai, mais au sujet de moi-même, je ne me vanterai que de mes faiblesses. Et pourtant, si je voulais me vanter, je ne serais pas un insensé, car je ne dirais que la vérité. Mais je m'en abstiens, car je désire éviter que l'on se fasse de moi une idée supérieure à ce qu'on peut déduire de mes actes et de mes paroles. D'ailleurs, parce que ces révélations étaient extraordinaires, pour me garder de l'orgueil, Dieu m'a imposé une épreuve qui, telle une écharde, tourmente mon corps. Elle me vient de Satan qui a été chargé de me frapper pour que je ne sois pas rempli d'orgueil. Au sujet de cette épreuve, j'ai prié par trois fois le Seigneur de l'éloigner de moi. Mais il m'a répondu, « Ma grâce te suffit !» C'est dans la faiblesse que ma puissance se manifeste pleinement. C'est pourquoi je me vanterai plutôt de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Je trouve ainsi ma joie dans la faiblesse, les insultes, la détresse, les persécutions, les angoisses que j'endure pour le Christ. Car c'est lorsque je suis faible que je suis réellement fort. Père, après ce texte, je ne peux rester que devant toi à te dire, Seigneur, je suis rien, Seigneur, pour venir apporter un message de cette ampleur, Seigneur. Et je prie que tu me conduises, Saint-Esprit. Les manques de mots, Seigneur, qui m'accompagnent, Seigneur, je prie que tu les remplaces par ton onction, Saint-Esprit, et que tu touches les cœurs, parce que, Seigneur, ce n'est pas un show ici, Seigneur, on parle de toi, et toi, tu transformes les vies, et tu t'intéresses à chacune des vies qui est ici aujourd'hui. Et Père, si tu m'utilises aujourd'hui, je prie, fais grâce, Seigneur, car je suis faible et j'ai besoin de toi. Conduis-moi ce matin dans cette prédication, que ce soit toi qui sois exalté, et que ceux qui sont rentrés, Seigneur, faibles, ressortent forts en toi aujourd'hui. Amen. Ce message a été déposé dans mon cœur il y a 2 semaines. Je savais que je devais prêcher le 27 août, mais je ne savais pas ce que j'allais prêcher il y a 3-4 semaines. J'étais en vacances. Bien sûr, quand on est en vacances, en tant que pasteur, on pense toujours au Seigneur, on pense toujours quelle va être la suite. Seigneur, inspire-moi. Et il y a 2 semaines, quand Jean-Paul prêchait, j'étais revenu de vacances, il a déposé, Nico, tu dois parler des faiblesses, de la manière dont nous les voyons. Il a déposé ce sujet dans mon cœur, parce qu'il voulait me parler à moi-même. Et comme je parlais avec le pasteur Walter, par rapport à ce message, premièrement, nous sommes, c'est vrai, nous, les prédicateurs, ou ceux qui travaillons sur les messages que nous donnons, nous sommes, nous, premièrement, bénis par le message, mais nous sommes, nous, premièrement, travaillés par le message. Et le titre de mon message aujourd'hui, « Réjouis-toi de tes faiblesses ». Waouh ! Dites à votre voisin, réjouis-toi de tes faiblesses, parce que là, c'est la réalité aujourd'hui. Réjouis-toi de tes faiblesses. Généralement, on pourra dire plutôt, mais réjouis-toi de ta force. Aujourd'hui, réjouis-toi de tes faiblesses. Nous sommes d'accord de dire que nous avons des forces, mais aussi des faiblesses. Pour ça, on est d'accord. Il est généralement plus facile de reconnaître et accepter nos forces, alors que nos faiblesses ne sont pas toujours simples à accepter. On les reconnaît, mais on n'aime pas trop les accepter. Vous voyez cette image, un coureur, un marathonien qui est en train de finir la ligne, je pense qu'il arrive au bout, il est fatigué. Et vous voyez encore ces quelques images. Voilà une personne qui porte aussi, un unijambiste qui porte encore une autre marathonienne, quelqu'un qui se fait aider pour quelque chose de, je dirais, du travail, de l'ordre du travail, une personne âgée qui se fait aider par un motard, c'est très chouette, et un coach sportif. Je ne sais pas ce que vous pensez de ces images, mais c'est vrai que lorsqu'on voit ces images que je viens de montrer, elles procurent en nous, genre, ah, mais c'est trop beau ce qu'il a fait. Un peu de compassion, même de la fraternité. On se dit, ah ouais, moi j'aimerais bien porter quelqu'un avec une seule jambe, le porter jusqu'à la ligne d'arrivée. Mais est-ce que c'est facile d'être la personne qui est portée? Est-ce que c'est facile d'être la personne qui se fait aider? Pour la personne âgée, je pense que oui. Mais peut-être pour les autres, pas. Et vous, lorsque vous reconnaissez une faiblesse, ou que vous vivez une faiblesse, que faites-vous de cette faiblesse? Je pense que la plupart d'entre nous cherchons à la faire disparaître. On cherche à la faire disparaître parce qu'on n'aime pas les faiblesses. C'est évident. Notre société non plus n'aime pas les faiblesses. Elle nous demande d'être les meilleurs. Combien de fois on vous a dit dans votre entretien, exposez-moi vos faiblesses. C'est sur vos faiblesses que je vais vous engager. On vous demande vos forces et vos faiblesses pour savoir justement, ah lui, je ne vais pas pouvoir lui faire confiance parce que ça, c'est sa faiblesse. Non, on va vous demander vos forces parce qu'on veut que vous soyez solide et dur. Tout ça nous mène à montrer quelque chose de nous lorsque nous vivons. Cette société nous pousse à montrer quelque chose de nous-mêmes. Quelle image ai-je envie de montrer de moi-même? Quelle est cette image que je montre aux gens lorsque je marche, lorsque je travaille? Paul, alors qu'il est inspiré par le Saint-Esprit, écrit justement, je reprends quelques versets, je ne vais pas tout relire au début, il dit, faut-il se vanter? Cela n'est pas convenable. J'en viendrai cependant à des visions, à des révélations du Seigneur. Un peu plus bas au verset 5, il dit, au sujet d'un tel homme, je me vanterai, mais au sujet de moi-même, je ne me vanterai que de mes faiblesses. Alors que cette lettre de Paul, la deuxième lettre à l'église de Corinthe qui l'affectionne, dans cette lettre, Paul vient défendre, c'est une lettre qui est très personnelle. Et il vient défendre en fait les accusations, il vient défendre des faux enseignements, et il vient surtout défendre son apostolat. Est-ce que vraiment c'est un apôtre? Est-ce que vraiment il a reçu l'onction? Est-ce que vraiment il a reçu le go de Dieu d'être cet évangéliste, d'être cet enseignant, d'être cet apôtre? Il doit défendre parce qu'on remet en cause son apostolat. Il pourrait largement se vanter. Il pourrait largement se vanter. Entre nous, Paul, c'est un de ceux qui nous inspirent le plus. Si vous lisez la Bible, combien de livres il a écrit, combien de choses il a fait, il pourrait se vanter de sa vie avec le Seigneur. Mais ce n'est pas ce qui l'intéresse. Il préfère s'exposer à ses lecteurs tel qu'il se voit, sous le regard de Dieu, dans la lumière et la vérité. Il se présente sans paillettes, pas de maquillage, tel qu'il est vraiment, tel que son cœur le voit. Et comme je vous disais, notre société n'est pas à la recherche de personnes faibles. Elle recherche des personnes fortes, qui sont capables de réussir ce qu'on leur demande de faire. C'est rare qu'on vous demande, je t'emploie à ce travail, si tu n'y arrives pas, tant mieux. C'est génial, je me réjouis. Peut-être dans une église, on va te dire ça, mais je ne crois pas. On attend quand même que je donne le meilleur et que ce que je fais réussissent. Et pour ça, on va donner le meilleur de nous-mêmes. En fait, on est dans une société qui cherche à cacher ses faiblesses, qui ne veut pas les reconnaître et surtout qui ne veut pas les accepter. Car l'échec symbolise aussi, la faiblesse symbolise aussi l'échec. Et j'avoue que, alors que je travaillais sur ce message, il y a une pensée qui m'est venue. Et je me suis dit, j'ai pensé à la création au début, j'ai pensé en fait à Adam et Ève, qui étaient dans ce jardin d'Éden. On sait qu'ils étaient nus. On ne sait pas pour combien de temps ils étaient avant de goûter aux fruits interdits, on ne sait pas. On n'a pas une durée, est-ce qu'ils étaient là-bas pendant des mois, des années? On ne sait pas. Mais moi, ce que je me suis dit, c'est que avant de goûter aux fruits interdits, lorsqu'ils se regardaient, comme on a dit, ils étaient nus, il n'y avait aucun regard. Ah, t'as vu son bourrelet ici, ou t'as vu ça, ou hein, t'as vu, elle ne sait même pas faire des pompes, je ne sais pas. Je me suis dit, il n'y avait pas de regard sur le jugement de l'autre, il n'y avait pas de faiblesse. Il n'y avait pas de faiblesse parce qu'ils étaient purs, ils étaient saints, ils vivaient dans la sainteté de Dieu jusqu'au jour où ils ont désobéi. Et à ce moment-là, on le sait, ils ont commencé, la première des choses, c'est « trouve-moi une feuille de vigne ». Aujourd'hui, on a mieux, on a des costards et tout, hein, c'est pas mal. À cette époque-là, ils n'avaient encore pas Giorgio Armani, etc. Mais ils ont quand même vite voulu s'habiller pour cacher le péché, la faiblesse, pour cacher cette faiblesse. Ils ne voulaient pas montrer à Dieu leur péché. Ils ne voulaient pas montrer à Dieu leur faiblesse. La faiblesse est moche. Est-ce que vous aimez les faiblesses? Non. À moins d'être un peu fou. Qui souhaite l'exposer et en parler? Lorsque vous êtes dans la rue, au travail, dans votre famille, avec des amis, devant Dieu, quelle image montrez-vous de vous? Ah, oh, tu sais, tout va bien, oui, oui, comment tu vas? Ouais, ça va bien, t'inquiète pas. Et au travail? Ouais, Imhotep, ça va très bien au travail. Pas de soucis. Je me débrouille, j'assure. Et à la maison, avec ta femme, avec ton mari, avec tes enfants? Oh, c'est nickel! On est en divorce, mais je te le dis pas, mais c'est génial! Combien de fois les gens vont vous répondre comme ça? Dans certains cas, peut-être, certaines personnes seront d'accord de vous montrer un petit peu, partiellement, leur faiblesse. Oui, je galère au travail. Tu peux prier pour moi. Oui, c'est difficile à suivre avec la pression. Tu peux prier pour moi. Certaines personnes demanderont de l'aide, alors que d'autres pas. Pour quelle raison, je ne sais pas. Pour d'autres cas, c'est quand même un peu plus compliqué aussi. Comment vis-tu ton manque de discipline? Comment vis-tu la mauvaise gestion de ton caractère? Comment vis-tu le fait de ne pas pouvoir tout gérer? Il n'est pas évident d'accepter de ne pas être à la hauteur. C'est très difficile en tant qu'humain de ne pas être à la hauteur. On veut être à la hauteur, on veut montrer qu'on gère les choses devant les gens et aussi devant Dieu. La religion, c'est montrer qu'on y arrive par nos propres forces. Nous souhaitons toujours montrer le meilleur. Nous voudrions tout gérer. On veut tout gérer, on veut y arriver. Nico, je te donne encore un truc. Non, pasteur Walter, arrête, j'arrive plus. Déjà à la jeunesse. Mais des fois, on dit, ah non, mais je vais y arriver. Rappelez-vous, Pierre, celui qui est sorti de la barque, hein, si jamais vous avez oublié, alors qu'il y avait la tempête, Pierre est sorti de la barque, hein, courageux, hein, homme de foi, zélé. Rappelez-vous, Pierre, quelques heures avant la crucifixion de son rabbi, de Jésus. Rappelez-vous de ce moment. Oh, je te lâcherai pas, Jésus. Moi, je vais aller jusqu'au bout avec toi. Pierre, calme-toi. Avant que le coq aura chanté deux fois, tu m'auras trahi trois fois. T'es fou. Mais ça va, Jésus, tu sais pas qui je suis Pierre, j'ai marché sur l'eau. Et pourtant, Pierre le reniera bien trois fois. Alors qu'il voulait montrer qu'il était fort. Jésus a voulu lui montrer, Pierre, regarde ta faiblesse. Regarde tes faiblesses. Arrête de te croire fort. Je pense qu'à ce moment, Pierre a dû vraiment vivre quelque chose de douloureux. Ça a dû être très difficile d'accepter justement sa faiblesse. Mais vous savez quoi? Elle a été tellement bénéfique pour lui par la suite. Tellement bénéfique. Et nous, est-ce qu'on est prêt de voir nos vies être mises à nu? Est-ce qu'on est prêt à dire, ok, j'enlève ça, Seigneur, regarde tout de moi. Il n'y a plus de secret. Montre-moi mes faiblesses. Est-ce qu'on est prêt à accepter nos faiblesses? Est-ce qu'on est prêt à les reconnaître? Est-ce qu'on est prêt à apprendre à reconnaître nos faiblesses? Et Paul continue donc dans ce 2 Corinthiens 12, 7. Vous n'avez pas besoin de le projeter, écoutez-moi seulement. D'ailleurs, parce que ces révélations étaient extraordinaires, pour me garder de l'orgueil, Dieu m'a imposé une épreuve qui, telle une écharde, tourmente mon corps. Elle me vient de Satan qui a été chargé de me frapper pour que je ne sois pas rempli d'orgueil. C'est un texte, juste ces versets sont difficiles à comprendre. Qu'est-ce que dit Paul ici? Paul réalise déjà ce qu'il a reçu de Dieu, les révélations extraordinaires qu'il a reçues que, je pense, très peu d'entre nous pourront vivre un jour avant d'être avec le Seigneur. Il réalise ce qu'il a reçu, il réalise aussi que juste avec ce qu'il a reçu, il pourrait aller dans toutes les rues, dans toutes les villes et justement baptiser, faire des disciples, juste avec ce qu'il a reçu. Mais là, justement, il va se passer quelque chose. Le diable vient pour l'affaiblir. C'est encore mystérieux, on ne sait pas. Je ne crois pas que ni le pasteur Jean-Paul ni le pasteur Walter savent quelle est vraiment cette faiblesse. Elle a été spéculée, c'était physique, c'était mental, c'était par rapport au jugement des gens, par rapport à sa faiblesse dans l'élocution. On ne sait pas vraiment, mais en tout cas, c'était une faiblesse qui était douloureuse pour l'empêcher d'être orgueilleux. Et moi, je me suis posé la question, quelle était donc la faiblesse de Paul? On dit c'est l'orgueil. Est-ce qu'il était trop zélé pour Jésus? De vouloir voir des milliers d'âmes sauvées? Est-ce que c'était ça son orgueil? Je ne crois pas. Mais je pense que son zèle aurait pu devenir l'élément qui l'aurait rendu moins dépendant de Dieu. Ce qu'il avait reçu aurait pu l'éloigner de Dieu en se satisfaisant de ce qu'il a vécu. Ça nous est déjà arrivé lorsque vous recevez une révélation, puis là vous allez dire à tout le monde, regarde ce que j'ai reçu comme révélation. Et en fait, même on se vante de ce qu'on a reçu. Et lui dit, je ne veux pas me vanter de ça. Mais il se dit quand même que tout ce qu'il a reçu peut éventuellement l'empêcher de rester dépendant de Dieu. Et c'est là où il dit sa faiblesse, c'est que ne faut pas que je devienne indépendant. Cet orgueil spirituel de tout pouvoir faire tout seul. La faiblesse, nous savons, ce n'est pas quelque chose de positif, c'est un manque de quelque chose. Et nous comprenons tous que la faiblesse n'a rien de populaire. On ne parle pas de nouveau des faiblesses, sauf dans les magazines People. Regarde, il a bu et puis il était là. Mais on n'expose pas les faiblesses des gens. Ce n'est pas populaire. On n'a pas envie de montrer nos faiblesses. Le monde voit la faiblesse comme une erreur, comme un fardeau qui ne devrait pas exister. Nous devons tout faire pour la faire disparaître. L'homme ne veut pas de faiblesse parce qu'il est orgueilleux. Je ne veux pas de faiblesse. Je veux tout réussir parce que je suis orgueilleux. Le péché vient de l'orgueil, la désobéissance. Et suite au péché, l'homme est devenu tellement orgueilleux, il a voulu devenir Dieu et dire « j'ai pas besoin de toi ». Mais Jésus, que pense-t-il de la faiblesse? Est-ce qu'il souhaite voir des enfants forts qui arrivent tout, qui n'ont pas de faiblesse? Est-il en colère face à nos faiblesses? Est-ce qu'il est comme le monde? Non! Ben alors, dites-le ensemble. Non, il n'est pas en colère de vos faiblesses. Non, il n'a pas peur de vos faiblesses. Il faut le savoir et il faut le croire. Est-ce que vous croyez que Dieu ne s'en fait pas de vos faiblesses? Et même qu'il est intéressé à vos faiblesses? Est-ce que vous savez aussi qu'il connaît vos faiblesses? Ça ne sert à rien d'essayer de les cacher. Ça ne sert à rien, à rien du tout. Dieu connaît toutes vos faiblesses, toutes nos faiblesses, toutes mes faiblesses. Les cacher, c'est vraiment penser que Dieu ne voit pas, tout comme Adam et Ève. On se cache derrière des habits, tu ne verras pas ce qu'il y a au-dedans. Dieu voit tout et il n'a pas peur de nos faiblesses. C'est pourquoi nous ne devons pas avoir peur de demander à Jésus de nous montrer quelles sont nos faiblesses. Qu'il vienne sonder nos cœurs. Qu'est-ce qui nous éloigne de lui? Quelles sont les faiblesses qui nous éloignent d'être dépendants de lui et de nous rendre indépendants, orgueilleux? Est-il possible, je vous pose la question, vous avez tous soit une voiture, soit un vélo, allez, soit un scooter, soit des patins à roulettes, en tout cas quelque chose comme ça. Est-ce que c'est possible pour un mécanicien de réparer le moteur de votre voiture si vous lui dites « tu n'as pas le droit d'ouvrir mon capot ». Tu as le droit d'imposer les mains sur le capot, mais tu n'as pas le droit de l'ouvrir. Est-ce que c'est possible de réparer le moteur pour ce mécanicien qui ne connaît pas Jésus, donc il n'a pas l'imposition des mains encore? Ça va être difficile, ça va être très difficile. Nous devons apprendre à reconnaître nos faiblesses, les identifier à l'aide du Saint-Esprit. Parce que ce n'est pas avec nos yeux qu'on va voir les faiblesses, parce que là on est déjà complètement, on est faux nous. Il faut demander au Saint-Esprit, sonde-nous, montre-moi vraiment mes faiblesses. Montre-moi l'orgueil que j'ai, l'apitoiement de soi, le perfectionnisme, la religiosité, la solitude, nos capacités intellectuelles, etc. Et vous entendez, j'ai dit, le perfectionnisme, l'orgueil, etc. Je pourrais encore ajouter même le zèle, etc. Vous allez dire, mais ça c'est bien Nico, c'est pas des faiblesses, c'est des forces. Mais vous savez, certaines forces qui pour nous sont belles, pour Dieu sont des faiblesses. Si on ne demande pas à Dieu de nous montrer nos faiblesses, nous allons pouvoir nous balader avec une faiblesse, porter une faiblesse en pensant qu'elle est une force. Et ça c'est l'orgueil. L'orgueil, on pourrait le décrire sous tellement de coutures. Il est dans plein de manières l'orgueil. Justement, de ne pas aller dire, « Pasteur Walter, lis mon message parce que je ne me sens pas prêt, s'il te plaît. » Ou non, moi j'ai déjà fait une école biblique, ça fait déjà un an et demi que je suis ici, c'est sûr que mon message il va être au top. Je n'ai pas besoin qu'on regarde mon message. Accepter de dire, il y a sûrement des choses qui peuvent être vues, il y a peut-être des réflexions. Accepter de dire, je ne vais peut-être pas y arriver, même si j'ai lu 15 fois la Bible. Il faut accepter. Tout comme Paul, acceptons de devenir faibles. Acceptons de dire, je n'y arrive pas, c'est trop dur de réaliser que nos forces, même incroyables, ne nous permettront pas d'accomplir le plan de Dieu. Parce que peut-être ici vous vous dites, cool, moi je vais accomplir le plan de Dieu, j'ai reçu des talents, on a tous des talents. Et des fois vous vous reposez davantage sur vos talents que sur Dieu qui donne les talents. Que sur le Dieu qui fait fleurir les talents, que sur le Dieu qui fait l'impossible à travers vos talents. Si vous vous reposez sur vos talents, vous passerez à côté du surnaturel, vous passerez à côté de la puissance de Dieu qui met la vie dans vos talents, dans mes talents. Alors qu'on dit « j'y arrive pas », alors qu'on dit « Seigneur, montre-moi mes faiblesses », c'est à ce moment précis que Jésus pourra voir l'intérieur du moteur. C'est à ce moment-là où il dit, ok, tu as le droit d'ouvrir le capot, regarde mes faiblesses, toutes mes faiblesses, montre-les-moi, indique-moi le joint de culasse qui ne marche pas, ce genre de choses. Regarde mon cœur. David, oh Dieu, sonde mon cœur et connais mes pensées. Montre-moi ce qui m'éloigne de ton chemin, montre-moi ce qui m'éloigne de tes promesses, montre-moi ce qui m'éloigne de vivre le surnaturel. C'est ce que dira David. Et de vivre la puissance et la grâce de Dieu pleinement. Jésus se manifeste dans nos faiblesses. Dites ça à votre voisin en le croyant. Jésus se manifeste dans tes faiblesses. Jésus va se manifester dans vos faiblesses, dans mes faiblesses. Waouh ! On devrait dire merci Seigneur ! Applaudissons Jésus ! Mais est-ce que vous avez déjà eu un patron qui vous a dit « Moi, je vais te faire te glorifier dans tes faiblesses ?» Est-ce que déjà quelqu'un vous a dit ça? Moi, je vais me glorifier dans tes faiblesses, dans ce que tu n'arrives pas. C'est là où je vais montrer combien je suis grand. Et ce que je peux faire avec toi, même si tu es faible. C'est juste hallucinant. Et ça, c'est le Dieu qu'on sert. Il ne faut pas oublier ça. On a trop tendance à l'oublier. Et moi le premier. Que dira Paul encore dans cette première partie de 2 Corinthiens 12, les versets 8 à 10? Au sujet de cette épreuve, j'ai prié par 3 fois le Seigneur de l'éloigner de moi. Mais il m'a répondu, ma grâce te suffit. C'est dans la faiblesse que ma puissance se manifeste pleinement. C'est pourquoi je me vanterai plutôt de mes faiblesses, afin que la puissance du Christ repose sur moi. Je trouve ainsi ma joie dans la faiblesse, les insultes, la détresse, les persécutions, les angoisses que j'endure pour le Christ. Car c'est lorsque nous sommes faibles, que nous sommes réellement forts. Waouh ! Je ne pense pas qu'il y a beaucoup de livres de philosophie qui vous disent ça. C'est que Dieu, notre Dieu vivant, qui peut nous dire quelque chose comme ça, celui qui est venu à la croix pour manifester sa force, qui peut nous dire, c'est dans ta faiblesse que je vais me glorifier. Qui aurait pu imaginer entendre Paul, ce super apôtre justement, cet homme de foi, cet homme qui a transformé de nombreuses nations par son ministère, se réjouir d'être faible. Moi, je pense que là, on doit être dans un livre de science-fiction, quoi. Où sont les effets spéciaux? Où sont les choses que je ne comprends pas? Si vous lisez ça et vous dites, bien sûr, c'est normal. Expliquez-moi. Ce que Paul découvre ici, alors qu'il continue son chemin de foi, est extraordinaire. Ce n'est pas juste quelque chose qui est venu, « Ah oui, c'est vrai, quand je suis faible, je vois que tu es plus fort. » Ce n'est pas une réflexion humaine. C'est une grâce, une révélation que Dieu lui donne. C'est un cadeau, c'est une grâce qui lui est accordée. Jésus ne cherche pas des hommes et des femmes qui sont super forts, talentueux, qui peuvent tout gérer. Il ne cherche pas un Nico qui est là et puis qui va tout gérer. Là, il va gérer le groupe de jeunes et puis d'autres choses. Et puis voilà, il me met plein de choses parce que son fardeau, il est lourd. Le fardeau de Dieu est comment ? Il est léger. Il n'est pas lourd parce que ce n'est pas nous qui le portons, c'est lui. Il ne veut pas qu'on soit fort. Il veut qu'on soit dépendant. Il cherche des personnes qui réalisent qu'ils ne peuvent rien accomplir sans sa présence, sans sa puissance, sans sa grâce. Bien sûr que des super prédicateurs peuvent nous impressionner. J'en suis peut-être pas encore un, peut-être je le deviendrai jamais, mais peu importe, je ne veux pas. Peut-être que des génies, comme Einstein et d'autres génies qui nous ont permis de faire plein de découvertes, sont hallucinamment incroyables. Waouh, regarde leur force et leur capacité intellectuelle. Mais je préfère voir un homme et une femme qui avancent selon le Saint-Esprit et qui va agir avec puissance et impacter des vies pour l'éternité. Parce que moi, je ne veux pas amasser des trésors sur cette terre. Avec vos forces, avec nos forces, on pourra amasser que des trésors temporaires. Mais lorsque Jésus, par sa puissance, vient et nous utilise, alors c'est un effet éternel. C'est un effet éternel et ça va avoir un impact aux cieux. Et moi, je préfère que ma vie puisse avoir un impact pour les cieux, pour l'éternité, qu'avoir un impact ici. Puis on se dit, waouh, Nico, il prêchait tellement bien. Mais bon, les gens, après son message, ils n'allaient pas vers Jésus. Super. Moi, je ne veux pas ça. La semaine dernière, vous avez entendu le message du docteur Salzman. Et j'ai été tellement bouleversé aussi dans cette matinée. À plusieurs moments, mais à un moment, il a dit, Gandhi ne s'est pas converti au christianisme parce que la vie des chrétiens n'était pas en accord avec l'enseignement qu'il vivait. Est-ce que vous aimeriez être comme ça, vous ? Est-ce que lorsque vous serez devant Jésus, il vous dira, super, tu as fait tout un fake, tu as mis plein de paillettes, tu avais l'air super, tu avais l'air d'être un religieux, tu avais l'air de... Mais t'es qui ? Je te connais même pas. Moi, lorsque je serai en haut, je veux entendre, bien, fidèle et bon serviteur, tu m'as laissé agir à travers toi. Tu n'as pas cherché à te glorifier toi-même. J'arrive gentiment au bout. Permettez-moi de continuer encore sur la grandeur de notre Dieu. Paul réalise que tous les atouts et talents qu'il a pour se vanter, il pourrait être un homme pieux de renommée, il l'est déjà, mais Dieu, dans sa grâce, le protège de ce chemin. Il vient l'affaiblir afin qu'il puisse découvrir la vraie puissance de Jésus dans la dépendance totale. Et on dit aussi dans les commentaires, on lit, il a prié 3 fois. Je pense que peut-être certains qui ont vécu ici des douleurs, que ce soit physique ou émotionnelle, fortes, vous avez prié d'une intensité que vous n'avez jamais prié autrement. Je ne sais pas l'intensité à laquelle Paul a prié durant ces 3 fois, mais je pense que ce n'était pas une prière de 15 minutes. Je pense que c'était une prière un peu comme celle d'Anne qui prie pour un enfant, où il a supplié, il a crié, c'est dur, c'est douloureux, j'y arrive pas. Parce que dans sa faiblesse, il est venu devant Dieu et s'est retrouvé tel un homme faible. Je peux rien, aide-moi, manifeste-toi, j'ai besoin de toi. Vous me direz peut-être que c'est logique, tout ce que je vous dis maintenant. Bien sûr, il a réalisé que c'était lorsqu'il était faible que Dieu se glorifiait. C'est tout à fait logique. Mais non, ce n'est pas logique. C'est un fonctionnement complètement opposé à notre nature charnelle. C'est un fonctionnement pleinement spirituel. Et ce n'est pas du tout logique. Lorsque nous naissons, nous sommes pécheurs et orgueilleux. Lorsque nous naissons à nouveau, nous sommes encore pécheurs et orgueilleux, mais sauvés et justifiés par le sang. En marche pour devenir généreux, pour découvrir la vraie humilité qui incarne pleinement Jésus. Mais ça s'appelle la sanctification. On ne devient pas un coup genre orgueilleux, puis d'un coup, vous êtes comme Jésus. C'est un chemin de foi, c'est une sanctification où la chair doit mourir et l'esprit doit prendre plus de place. Comme Jean a dit, moins de moi, plus de toi. C'est exactement ce que Paul découvre. Moins de moi, plus de toi. Plus de faiblesse, plus de toi. Montre-moi que j'y arrive pas, et plus de toi. Voyez l'exemple que Jésus, voyez qui ce qu'a fait Jésus. Lui qui était Dieu incarné, tout puissant, il s'est affaibli jusqu'à venir mourir crucifié à la croix. Est-ce que c'est ça, le Dieu tout puissant? Waouh! Waouh! Quelle faiblesse! Comment Dieu a-t-il pu choisir ce chemin pour manifester sa gloire? Moi, je trouve ça quand même vraiment hallucinant, quoi. Il n'y a pas un enseignement plus fou que l'enseignement de la parole de Dieu. C'est tellement incroyable. Dieu souhaitait montrer au monde et surtout à Satan qu'il n'avait pas besoin de lui montrer sa force pour l'écraser, mais qu'à travers un chemin de faiblesse et d'humilité parfaite, il viendrait vaincre le péché éternellement. Qui aurait pensé? Les disciples tous ont été bluffés, mais comment ça, il est mort à la croix? Tous nos espoirs sont anéantis. Alors que dans ce chemin de faiblesse, la gloire parfaite de Dieu, le chemin de la réconciliation a été ouvert parce qu'il a décidé d'être faible jusqu'à la mort. Dieu a manifesté sa puissance à travers sa mort afin de nous donner une espérance et un regard différent sur notre vie. Car ce n'est pas notre force que Dieu recherche, mais nos faiblesses, afin de pouvoir venir se glorifier et confronter le monde. Dans la première lettre aux Corinthiens, vous connaissez sûrement ce verset, 1 Corinthiens 1, 27, Paul va dire « Non, Dieu a choisi ce que le monde considère comme une folie pour confondre les sages, et il a choisi ce qui est faible pour couvrir de honte les puissants. » Est-ce que vous avez déjà dit « Seigneur, montre à tous ces gens qui se pensent puissants que ma faiblesse est le moyen que tu viens les humilier, que tu viens leur montrer ta puissance à travers mon incapacité ?» Qui aurait pensé que David allait vaincre Goliath? Qui aurait pensé ce petit gringalet? Heureusement, il était roux. Vous ne le saviez peut-être pas, mais il était roux et je pense que c'est ce qui l'a aidé. Ils sont tous en train de se dire, quel orgueilleux ce Nico. Il était roux. Non, il était petit, faible, mais il avait un grand Dieu et il avait foi en son grand Dieu. Il n'a pas dit à Goliath, je vois ta force, je vois mes faiblesses. Il a dit, je vois mes faiblesses, mais je vois mon grand Dieu. Il va t'écraser. Il va t'écraser par mes faiblesses. Dieu va se manifester. Amen. Aujourd'hui, mes frères et mes sœurs, que j'affectionne particulièrement, et Dieu me donne cet amour pour chacun de ceux qui sont dans l'Église, c'est ce que Dieu fait dans le cœur des pasteurs, ce qui nous rend amoureux de vous, dans les faiblesses, dans les forces, dans les qualités et les défauts que chacun a, que chacun porte. Mais il nous donne un amour sincère, qui s'affectionne pour ses bien-aimés. Nous avons le choix aujourd'hui de nous montrer forts ou faibles devant les hommes, et nous avons ce même choix face à Dieu. Vous avez, nous avons. Mais rappelez-vous, et rappelons-nous néanmoins, qu'un seul choix vous permettra de connaître la grâce et la puissance de Dieu pleinement. Le chemin de la faiblesse, de la souffrance, des afflictions, des défis, des abandons. Oui, la faiblesse que Dieu nous permet de vivre est aussi le meilleur moyen de rester proche de lui et d'expérimenter sa grâce pleinement. Lorsqu'on n'y arrive pas, Dieu vient et nous couvre de sa grâce. Je sais qu'ici, il y en aurait plein qui pourraient témoigner. C'est vrai, lorsque j'étais au plus bas, ma foi était au plus haut. Est-ce que c'est vrai? Dieu souhaite qu'on vive comme ça tous les jours, qu'on soit toujours au plus bas pour qu'il puisse être au plus haut. Et de cette manière, il va accomplir des grandes choses à travers nos vies de faiblesse. La faiblesse nous rappelle toujours aussi l'image que nous sommes, nous rappelle justement que nous sommes des humains et que nous dépendons d'un Dieu magnifique, d'un Dieu qui est tout puissant. Ce n'est pas parce que je suis jeune que je dois être en bonne santé. C'est une grâce. Heureux ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres, faibles, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux êtes-vous si vous reconnaissez votre besoin de Dieu, si vous réalisez que votre faiblesse spirituelle vous amène à demander plus de Dieu, à vous humilier et à recevoir la puissance de Dieu. J'aimerais juste terminer ce message. J'ai lu un auteur quand j'étais à l'école de théologie, David Brainerd. Peut-être certains d'entre vous le connaissent. Il n'est pas très connu, il n'a pas vécu longtemps. Je crois. Si je ne me trompe pas, il est mort à 32 ans. Un jeune rempli de zèle, qui a été envoyé pour les natifs américains, pour les Indiens d'Amérique. Il se baladait à cheval, ce David Brainerd, mais très jeune, il a été touché de faiblesse physique, il était faible. Et dans sa biographie que j'ai lue, Il disait que des fois, c'était tellement difficile. Il était couché pendant 2, 3, 4 jours. Au moment où Dieu l'appelait pour prêcher, bam, une force surnaturelle, des conversions, des miracles. Il est mort jeune, mais il a eu un impact éternel qui durera éternellement. Et écoutez ce qu'il dit, que j'ai écrit ici. Une fois encore, ne pensez jamais que vous pouvez vivre pour Dieu par vos propres puissances et vos propres forces. Mais en tout temps, regardez et attendez-vous à lui et son soutien. Oui, pour toute force et grâce.